Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de retracer l'histoire de Last Man, l'une des plus grandes épopées sorties en BD en France ces 10 dernières années. La particularité de Last Man, c'est aussi que l'univers a été étendu à d'autres médias, un jeu vidéo de baston sorti sur PC et sur console et également une série animée dispo sur Netflix. Je reçois donc ces trois auteurs, Balak, Michael Salanville et Bastien Vivès, et ensemble on discute de l'origine de ce projet un peu fou dans le monde de la BD française. Vous aurez aussi droit en passant à un débat manga versus BD franco-belge, et même si t'y connais pas grand chose, c'est très intéressant, ou encore de la façon dont ils ont décidé d'ajouter des tas de goodies à leur BD, etc. etc. On parle de plein d'autres sujets. C'est tout à fait passionnant et je vous invite à découvrir Last Man, que ce soit par l'intermédiaire de la série sur Netflix ou directement en BD. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Ce podcast n'a que, entre guillemets, une petite centaine de notes dans Apple Podcasts et j'aimerais vraiment que vous lui envoyiez de l'amour. Si vous avez un iPhone, ça serait donc super que vous tapiez Histoire de succès dans Apple Podcasts et que vous lui mettiez 5 étoiles et un commentaire de préférence sympa sur ce que vous pensez de ce podcast. Un grand, grand merci d'avance. Je vous donne, moi, de mon côté, rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast. Venez mettre un commentaire sur www.histoiredesucces.com. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite, de mon côté, de passer un bon moment en compagnie des auteurs de Last Man. Bon, alors, on est avec les trois gaillards qui ont fait Last Man, qui sont derrière Last Man. Bastien Vivès, Michael Salanville et Balak. Bienvenue à tous les trois. On va parler un petit peu de la création de Last Man, parce que le dernier tome sort ces jours-ci là, le 12e. Vous avez démarré donc en 2013, c'est ça?
Ouais, on a commencé à dessiner en
2012, et même vous, ça date de 2011, votre rencontre,
oui, c'est ça,
ouais. Fin 2011, je crois.
Ah oui, non, mais quand on commence à réfléchir sur qu'est-ce
vous,
qu'on
oui.
fait,
ouais. Et moi je me suis greffé fin 2011, début 2012, putain, ma première planche.
Quoi. Moi, la timeline, je l'ai pas. Hein. Je suis désolé.
Ah si, mais je l'ai bien.
Okay.
Il y a un trou noir dans la vie de Balak. Dans ses...
ouais.
Entre 2005 et 2010, c'est plus trop ce qui s'est passé.
Que s'est-il passé?
Je sais pas. Voilà.
Des studios d'animation. Qui...
Est-ce que vous pouvez, pour les gens qui connaissent pas Last Man, les pauvres, pitcher l'histoire?
C'est en gros ce qu'il faut retenir de Last Man, c'est donc il y a deux univers, il y a un univers qui ressemble un peu au nôtre et un univers un peu médiéval fantastique. Il y a un passage entre ces deux univers et il y a un type qui va franchir qui va traverser le passage, qui s'appelle Richard Aldana et qui va se retrouver dans cet univers fantastique qui s'appelle la Vallée des Rois, et il a il y a un grand tournoi d'arts martiaux et il va devoir faire équipe avec un gamin de 8 ans. Et voilà.
On n'a jamais fait de
résumer Last Man, c'est compliqué, sauf il y avait Jérôme, le mec de BFM TV, qui a fait un pitch que j'ai trouvé très bon.
Ouais.
C'est exactement ce que je viens de dire. De commencer par parler des deux univers et non pas de commencer par les des personnages, parce que sinon on s'en sort pas.
Ah, c'est pas bête.
Donc c'est une grande épopée.
Ouais.
Parce que vraiment, sur les 12 tomes, ça fait beaucoup de pages.
Oui, 12 tomes, ça fait 2400 pages.
Waouh!
Bon, alors plus en fait, puisque le dernier tome a plus de pages.
Un petit peu plus de pages, ouais.
Ah oui. Comment vous vous êtes retrouvés? Parce que là, vous parliez du fait que vous étiez retrouvés tous les deux.
Connaît depuis les internets, à l'époque où les internets étaient.
Un endroit.
Était cool.
Sauvage.
Un endroit agréable.
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 Les trois, c'était déjà en train de faire.
Non. Mais.
Faites chauffer le hashtag.
Non. Mais c'était nous on s'était rencontrés, c'était avant d'entrer au Gobelin, donc ça devait être 2003 2002 sur Katsuka. Bah, tous les passionnés de japanime et d'animation connaissent Katsuka. Et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil.
Je mettrai des liens.
Sur les réseaux sociaux, il y avait des trucs qui s'appelaient des forums.
Des forums.
Et, où tu avais des connards qui postaient. Et,
ouais.
Et des dessins, des, voilà, qui, ouais. Qui s'embrouillaient de manière festive.
Voilà, c'était vraiment. C'était, et puis il y avait.
C'était les prémices des réseaux sociaux, parce que moi j'ai mis un dessin, je me suis fait insulter. J'ai fait, oula!
Sur Katsuka?
Oula, ils sont. Ouais, sur Katsuka.
Ah, bah, c'est normal.
Ouais. Ouais, du coup, j'ai fui.
Ah, t'es. Oui.
Bah, c'est à dire que je me suis. C'était dur, hein. Je me suis dit, putain, la vache, les gars, ils sont chauds, mais
un
en
royaume
fait.
Royaume de connards.
Voilà, c'est juste que moi j'étais peut-être un peu naïf et puis
la
que c'était un
connards.
Peu de la vanne, quoi.
Ouais, c'était assez rigolo. Et après, Balak, lui, il était rentré au Gobelin, ouais. Et nous, on est arrivés tous les deux
2004.
Avec Mickaël, on est à la promo juste avant.
D'accord.
Ce qui fait qu'on se connaît depuis 2004.
On s'est rencontrés en fait au moment où toi tu voulais rentrer au Gobelin.
Ouais.
Moi j'étais déjà depuis un an et tu t'avais préparé un book et tu voulais voir si ça passait.
Ouais.
Ça passait pas du tout. Hein. Comme à peu près tout ce que tu fais, ça passait absolument pas. Il a été pris quand même.
Et non, mais je suis quand même passé. C'était ric-rac entre moi et le premier sur liste d'attente. Et,
ouais. Et t'étais sur liste d'attente ou quoi? Ouais,
non, c'est pas liste d'attente. C'était vraiment.
Il y a,
ils réussissent à me.
Quelques places ou.
Ouais, mais vraiment, ça s'est joué à pas grand chose parce qu'ils avaient peur que je quitte. Ils disent, ah, mais lui, il va se barrer des gobelins parce qu'il est pas fait pour l'anime.
Et ils avaient
raison. Ouais. Je me suis barré des gobelins.
Faut faire gaffe.
Mais après, Mickaël sur la ville aussi s'est barré des gobelins. Et ça, l'histoire, personne le retient.
Parce que tu te barrais pour aller travailler vraiment dans l'anime assez vite en fait.
Ah oui,
non, mais c'est-à-dire qu'on s'entendait bien avec Bastien, et puis toi, tu avais le projet de mettre, tu sais, réaliser le pilote de Pungi Larakai.
Ouais.
Et
pingouin.
Ça tombait au bon moment. Moi, c'est pareil. Il y a toujours cette fameuse année au Gobelin où on force beaucoup à faire de la 3D, et puis il y a l'esprit rebelle qui s'est mis en marche. Et non, c'était là une bonne occasion, une belle occasion.
Tu vois Bastien les yeux dans le vide, t'étais en train de penser à des souvenirs.
Je me rappelle comment ça s'est fait parce qu'il y a quand même un moment où ça s'est joué à pas grand chose parce qu'il y a la troisième année au Gobelin à l'époque qui faisait de la 3D.
Ils obligent.
Et à un moment, rappelle avoir toi, c'est vraiment Mickaël qui voulait se barrer des Gobelins parce que lui, il avait déjà fait Milcol avant et il voulait faire autre chose. Il voulait pas faire de la 3D et je lui avais dit. Ah mais viens, on reste, on fait quand même la troisième année et on fait une année 3D et tout ça. Ouais. Et après tu m'avais dit non vraiment, je pense pas et tout. On fait bon. Et à la fin de l'année de la deuxième année, on avait une initiation 3D. On a ouvert Maya, j'ai appuyé sur la barre espace et j'ai fait ouh là 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 là. On va pas du tout y aller en fait.
Ouais.
C'est hors de question. Et donc je me suis
non,
barré.
Non mais c'est le moment où les directions. Tu vois, c'est le moment où tu changes toute ta vie quoi. Parce que la plupart des gens avec qui on était au Gobelin, maintenant, bah, je pense, tu vois, de Pierre Périfel, par exemple,
qui travaille à DreamWorks,
qui est réel chez DreamWorks, ou tu sais,
bien sûr, il y en a plein.
Des parcours qui ont vraiment fait ce choix, qui ont été au bout, qui sont aux États-Unis et tout. Et je pense que en bossant un petit peu, on aurait pu nous aussi.
Bah, peut-être
simplement.
Pas moi.
Arrivé chez DreamWorks.
Mais si.
Pas arrivé chez Pixar en train de faire un film sur la famille, sauf que.
Non. C'est
non. Mais, ok, pas toi, mais moi j'ai vraiment ce problème existentiel.
C'est très
quoi.
Dur. Il faut arriver pour pouvoir travailler dans ces. Moi, je me rappelle toujours de. Il y avait un mec qui était avec nous au Gobelin qui s'appelait Bart.
Barthélémy Monori.
Voilà, et qui après elle est partie chez Framestore et qui a commencé à travailler sur les effets spéciaux de Harry Potter.
Ouais.
Et il m'avait montré, genre ils avaient travaillé pendant je sais pas un mois et sur les sirènes, il y avait des sirènes dans l'eau et donc il m'avait montré le plan et le plan il dure une seconde, enfin il dure peut-être 50 images et tu vois il y avait le truc, il a travaillé un mois dessus, j'étais genre ah c'est cool et tout les sirènes ça marchait bien, son plan était très bien et puis après quand tu regardais Harry Potter c'est cette très mauvaise saga à part le premier mais sinon le en gros c'était tu voyais juste ce plan qui passait 3 secondes tu t'es dit genre waouh tout ce talent parce que c'est quand même un mec qui a un dessin 2D incroyable et tout qui est vraiment très très bon et je me dis waouh tout ce talent pour faire ces petites sirènes et je me suis rendu compte que l'animation pouvait être un aspirateur et un gouffre pour des gens qui avaient peut-être un vrai talent de 2D, un vrai talent de dessin et tout, et qui vont animer des sirènes sur Harry Potter ou des dentifrices ou des choses
L'histoire
comme ça.
L'histoire se finit bien puisque Bart maintenant travaille chez Fortiche sur la dernière série qui a été annoncée récemment de League of Legends, où là vraiment on peut voir sa direction artistique qui est assez
Mais voilà, présente, mais tu vois le chemin qu'il a parcouru pour arriver là, c'était...
Ouais, alors c'était... que vous aviez tout de suite une forme de liberté de...
Bah avec la bande dessinée, oui.
Oui.
Parce que vu qu'il n'y a pas d'argent...
Y a une
pas
forme d'argent. De liberté, et oui, pas d'argent. Donc on bossait...
Il n'y a aucun problème. Non mais c'est ça aussi, il faut se dire, ils étaient en Angleterre, ils gagnaient beaucoup d'argent et tout.
C'est de 50 secondes, on coûtait 70 000...
Je sais pas combien...
fois beaucoup. Le budget de la série Last Man.
Voilà.
voilà, donc oui.
Ouais, je comprends.
Plus d'enjeux, quoi.
Non, je pense que c'est vraiment dans la bande dessinée... Quand on s'est lancé, moi quand je me suis lancé dedans, après Mickaël aussi, quand il a suivi après, mais toi t'as mis un petit peu plus de temps parce que t'étais aussi dans l'anime, toi aussi t'étais dans l'anime aussi, et toi t'y es retourné d'ailleurs. Mais pour se lancer dans la BD, moi je m'étais dit que j'attendais, je faisais ça pendant 2 ou 3 ans et j'essayais de voir si ça prenait quoi. Mais c'est vrai que je crois que vraiment dans la bande dessinée, c'est vraiment cette histoire d'argent qui est la plus qui va vraiment diriger pas mal de choix artistiques et pas mal de choses quoi.
Et parfois de non-choix artistiques.
Ouais. Parfois de non-choix artistiques évidemment.
Et comment vous faites alors pour vous retrouver autour de la semaine parce que
bah c'était Bastien qui
c'est ton idée.
Bah alors attends, moi j'ai une mémoire de merde donc tu peux vas-y, moi je me
rappelle. Ah, c'était encore dans une période floue. En fait, c'est Balak qui lui est en train de mourir dans des studios d'animation à faire du Total Spies ou des trucs comme ça.
Ah, t'as fait ça.
Qui
marathon, ouais. C'était très chouette.
Et voilà. Non mais
les gens étaient grosse expérience en fait.
Très grosse expérience.
Non mais grosse expérience de board. Mais en fait, l'anime c'est une super école hein, pour le dessin, il y a rien à dire, c'est juste que
du temps dans Dragon Ball.
Exactement.
Et voilà exactement et en fait, on se retrouve dans un bar, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Balak. Et à l'époque au Gobelin machin, on dessinait beaucoup de dessins, même sur Katsuka, dessins de cul et choses comme ça, et on voulait se faire une BD érotique, un truc porno, n'importe quoi. Et je lui dis mais viens faire de la BD. On commence à on en parle un petit peu, et puis très vite en fait, en parlant de ça avec Didier Borg, notre éditeur chez avec mon éditeur chez Casterman, on se dit ah mais si vous voulez faire un truc un peu manga, mais faites carrément du manga. On s'est dit ah ça peut devenir quelque chose de sérieux. Et à ce moment-là, on se dit et pourquoi est-ce qu'on tenterait pas de faire carrément un manga? Donc on a enlevé le côté cul porno, on est parti sur de l'aventure et on s'est dit tout de suite bah il nous faut un troisième pour venir dans la
troisième lardon.
C'est évident, tu vas chercher le, tu sais comme dans le, je sais pas, dans Commando ou Blues Brothers, ouais, quoi, tu vas chercher
il nous faut le meilleur du meilleur dans Masque.
Et alors tu vas chercher et surtout tu sais, non mais c'est exactement ça, c'est genre il te faut le meilleur du meilleur et c'est pas genre tu vas chercher Mickaël qui est genre chef réalisateur chez Pixar et tout. Non, Mickaël est en train de faire des props sur une série
sur
du Wikileaks ou je sais pas quoi, un truc vraiment genre Fapacha. Enfin, tu dis Mickaël vient et puis il fait ok, ça fait longtemps que j'ai pas retouché un crayon, ça fait longtemps que j'ai pas redessiné pour moi-même, allez les gars j'y vais. Et c'était drôle quoi.
Donc comment vous répartissez les, assez rapidement vous répartissez le boulot, donc toi tu fais le dessin, c'est ça?
On a commencé du coup parce qu'on attendait Mickaël qui devait quand même finir son engagement dans l'anime. On a commencé du coup tous les deux avec Bastien et là c'était un peu chaotique. Bastien au début me dit non mais c'est bon, tu vois, on va vraiment littéralement dessiner à trois, ma taille de brosse de pinceau et mes réglages sous Photoshop, c'est ça. Et puis c'est facile et je fais jamais je sais dessiner comme toi Bastien, c'est impossible.
C'est drôle.
Et mais on a essayé d'ailleurs, ça a donné lieu à des
choses. Il y a deux planches dans le tome 1 où il y a les décors.
Non, mais en plus
il y a deux planches dans le tome 1 et il y a une case où j'ai dessiné le sac.
Ouais, mais c'est très bien.
Et voilà.
Mais en fait, non, ce qui est cool, c'est que moi, quand j'arrive au dessin, en fait, c'est pareil. Bah, comme tu disais, ouais, ça fait longtemps que je peux dessiner. En fait.
Non, t'avais fait le fléau vert.
Gros, non, mais ce qu'il y a, c'est que toi, t'as commencé avec ton dessin à toi. Donc finalement, t'es dans la lignée de Paulina un petit peu. Tu vois, t'as un dessin comme ça. Et moi, en fait, quand j'arrive, on travaille dans l'anime. Donc, dans l'anime, on s'homogénéise autour d'un dessin commun. Et en fait, comme nous, on avait déjà fait Hollywoodian, je me souviens direct, tu fais « Non, mais on fait comme dans Hollywoodian, en fait. » Et par exemple, souvent, tu sais, tu me disais « Non, mais en fait, tu dessines comme tu veux, mais pourvu que les personnages soient élégants et jolis, tu vois. »
Bon, les premières gueules de Marianne, ça se ressemble au niveau du design. Ouais,
c'est-à-dire qu'il faut que... En fait, le problème de l'identité avec les noirs et blancs, en fait, ça passe. On se rend même pas compte qu'il y a deux dessinateurs, alors que nos dessins, au début, ils sont quand même vraiment très éloignés, quoi.
Alors, mais... je m'en étais pas rendu compte. Hein.
Non, mais ce qui fait, on pourrait même avoir des dessins encore plus différents, mais ce qui fait qu'on ne voit pas la différence, c'est la mise en scène. C'est que Balak est constamment sur la même mise en scène. Donc en fait, vu qu'il a la même mise en scène, tout d'un coup, eh ben, t'as des mêmes tailles de personnages, t'as une scène d'action qui est cohérente, voilà. tout est cohérent et donc là-dessus, on peut avoir. Mais vraiment, quand tu regardes au début, nos dessins, ils sont vraiment assez différents. Et après, on a trouvé.
C'est-à-dire qu'une page de la semaine, t'es obligé de la lire vite, oui. grâce à la mise en scène de Balak. Oh. Et le noir et blanc unifie nos deux dessins. Donc en fait, les trois quarts des gens ne font même pas attention.
Vous avez un dessin assez proche de base, mais quand même qui est vraiment très éloigné en fait quand on connaît le dessin. Mais aussi venant de l'anime, on sait aussi que voilà, comme on est tous des gros glaireux qui regardions image par image des Walt Disney ou je sais pas quoi, on a aussi cette confiance de se dire, on sait exactement quand on regarde un Disney ou un Chevalier Zodiac que c'est pas le même chef anime. Entre cette séquence-là et cette séquence-là, que là, clairement, c'est un stagiaire qui a fait Aladdin. mais on sait aussi que ce genre de considération passe largement au-dessus de la tête des gens qui regardent vraiment. Mais donc, on avait cette confiance aussi-là qui vient aussi de l'anime, quoi.
Ouais, puis je pense qu'il y a un vrai truc de, comme tu dis, ça se lit vite. En fait, c'est un page turner. Hein, vraiment, t'as envie de.
Un page Tina Turner.
Vous êtes toujours là, les gars?
Ouais, désolé. Pardon.
Et vous montez un vrai atelier. Enfin, l'objectif est de sortir vraiment énormément de tomes. Vous avez sorti 6 tomes en 1 an et demi. Enfin, c'est un truc.
Ouais, on avait pris 2 ans. On avait pris un an d'avance et on a réussi à faire les 6 en 1 an et demi, 2 ans.
C'était une volonté de votre part et de la part de l'éditeur de monter vraiment.
Au même moment, il y avait une série qui était sortie qui s'appelait Bakuman. Ouais. Une série où on voyait des jeunes mangakas et je trouvais que c'était très inspirant parce que ça nous donnait tout d'un coup une espèce de modèle à suivre parce que c'est vraiment calqué sur la production de mangas japonaise. On s'est dit il faut qu'on peut arriver à tenir ce rythme là et surtout pour de la série et en BD c'est trop long d'attendre à chaque fois 1 an chaque tome et tout. On a réussi sur les 6 premiers et après il y a eu plein de choses qui se sont rajoutées, le jeu vidéo, l'animation qui était pas forcément prévue et qui a fait qu'on a des moments où on a pris du retard et on a perdu un peu notre avance.
L'univers se complexifiait, les dessins étaient de plus en plus aussi complexes. Donc tout ça a fait qu'on a fini par redevenir des bons gros français qui sortions un album par
justement an. On en reparlera un peu après final. De tout l'univers, mais pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas la production de manga au Japon, est-ce que vous pouvez expliquer? En fait, c'est vraiment ils montent des ateliers qui produisent énormément de.
C'est vrai qu'on caricature un peu vite des fois la semaine en disant vous avez calqué la méthode japonaise. Non, en fait, pas du tout. Mais parce que les mangaka, effectivement, il y a un mangaka, puis après il y a ses assistants qui sont vraiment les commis dans la cuisine qui vont vraiment faire les BG, les décors, les trames, et puis tu as le maître qui dirige tout ça, le chef dans la cuisine. Quoi. Là, c'est vrai que c'était beaucoup plus. Il y avait un petit peu too many cooks parfois, non?
Trois à l'écriture. Très vite, on a été trois à l'écriture. Ouais. Chacun peut revenir sur les planches de l'autre. Si on doit enlever une séquence, on enlève une séquence. Il n'y a personne qui râle et tout ça. Ça, c'était très important.
Vous avez réussi à trouver une façon de travailler ensemble parce que.
C'est bien emboîté.
Il y a le côté
tout numérique sur un Dropbox commun aussi. Les mangas japonais traditionnels, ils sont encore sur papier.
Ils mettent du Typex quand il faut refaire.
Les trames, elles sont posées numériquement, un truc comme ça. Mais simplement, c'est frais. Presque plus l'héritage de l'animation en fait. Le fait de travailler à trois sur tablette sur un truc commun qui bouge sans cesse quoi, plutôt que l'héritage des...
Non, puis après eux ils devaient sortir 20 planches par semaine pour être publiés dans le magazine hebdomadaire.
Qu'on s'est mis comme contrainte aussi, on s'est mis des contraintes entre guillemets artificielles parce qu'on n'avait pas ces impératifs de prépublication comme les japonais, mais on se les est mises quand même avec ce que ça implique au niveau de l'écriture aussi, c'est-à-dire c'est comme si tu sortais toutes les semaines un épisode, et à la fin de l'épisode il faut qu'on dise mais qu'est-ce qui va se passer, ce qui on s'imposait des petits cliffhangers, des choses qui fait que ça relançait constamment l'intrigue, ce qui donne cette impression de Page Tina Turner.
C'était censé une imitation, mais pas bien sorti.
Et
Non, voilà. Sinon.
Ok, tu voulais ajouter un truc.
Non, 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 je réfléchis encore au fait, est-ce qu'on aurait pu tenir ce rythme-là tout le temps s'il n'y avait pas eu l'animé, s'il n'y avait pas eu le jeu vidéo? Peut-être, mais c'était vraiment trop chargé parce que dès qu'on a voulu monter un tout petit peu le dessin, ouais, ça rallonge, alors que je pense que les Japonais sont beaucoup plus calés, quoi. Ils savent exactement combien de temps ils vont passer sur chaque case avec chaque chose et tout, donc c'est pas évident, hein.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quand tu dis monter un peu le dessin, c'est-à-dire que...
Pousser un petit peu le dessin, ouais. On se retrouve, à un moment donné, on s'est retrouvé, je sais plus, le tome 7, ou le tome 8 et le tome 9, ouais, où c'est des bastons dans la ville et tout ça. Et on n'a jamais voulu rentrer, parce que par exemple, dans l'animation, on le fait dès qu'on dit « Ah ok, il y a une énorme émeute dans la ville », les gens disent « Non, 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 ça coûte trop cher comme plan, on le fait pas ». Nous, on n'a jamais dit... Parce que c'est la force de la bande dessinée, c'est que tu peux tout faire, quoi. Mais c'est sûr que tu fais du blabla dans le désert, ça va très vite. Des villes qui explosent avec des émeutes, c'est très très compliqué, quoi. Ouais.
Le vieux cliché, tu sais, des gens qui viennent du cinéma live ou de l'animation ou de je ne sais quoi et qui disent c'est super la BD parce qu'on peut faire les uns qui chargent dans une ville et tout ça. Et en fait, ça coûte pas plus cher que ferme ta grande gueule. Il y a toujours des artisans qui souffrent derrière ton idée à la con que t'as chié en deux secondes sur ton document Final Draft. Donc va te faire enculer, scénariste de mes couilles. Hashtag. Mais oui, donc non, c'est toujours compliqué. C'est juste qu'effectivement, dans un Harry Potter, ça a coûté cher, de toute façon, ils ont de la thune, pas qu'à savoir qu'en foutre. Mais c'est toujours du sang et des larmes pour les gens qui doivent le faire, c'est-à-dire les artisans, voilà, les gens du peuple, les gens d'en bas. Les gens qui aiment leur métier.
Le blanc ruche.
Tu n'as pas compris cette expression.
Mais si, c'est le miel d'Arnaud Montebourg.
Il faut
le miel, au lieu d'aller manger du miel de chinois avec du sucre et tout ça, aller manger du vrai miel français.
D'accord.
Et bleu blanc ruche, si vous allez sur le site de bleu blanc ruche.
Ok.com. .fr.
.fr, j'imagine. Ouais. tous les miels sont répertoriés, ceux que vous pouvez acheter. Qui sont...
C'est vrai?
Ouais, et c'est une très bonne initiative.
C'est vrai. Merci Arnaud.
Je connaissais pas bleu blanc ruche, tu vois. Il y a un autre truc moi qui m'a beaucoup plu dans la semaine, mais dès les débuts, c'est que vous avez foutu plein de goodies. Vous avez sorti des éditions collector, etc. Mmh. C'était votre volonté à vous en tant qu'artiste, ou alors c'est aussi une volonté?
Non, c'était aussi de mon côté.
C'était ton idée, ça.
Gros collectionneur de jouets, fan de tout ce qui peut se rajouter à l'histoire. En fait, ce que j'aime, par exemple, j'aime Star Wars, mais pas forcément pour Star Wars, pour ce que ça a créé. En fait, à peu près, bon, je veux dire que vu que j'ai grandi un peu, je veux dire j'aimais Star Wars. Mais parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. Mais j'aimais bien cette idée de
faire vivre un univers,
de faire vivre
en
un
de
univers, et pas
quoi,
forcément de répéter l'univers, mais d'aller chercher à chaque fois autre chose, de raconter les films avec les Ewoks. Quand j'étais petit, je trouvais ça super, quoi. Et donc très vite, vu que je suis gros fan de jouets, à chaque fois je me disais, ah, si on pouvait commencer à faire une édition collector avec des stickers. Et je me disais que peut-être si les stickers, il y aurait peut-être les pins, et s'il y a les pins, il y aurait peut-être des petites figurines en plastique. Et bien après, s'il y a les petites figurines en plastique, il y a peut-être des jouets. Et voilà, et au fur et à mesure, on s'imagine un truc comme ça. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que le plastique, c'est beaucoup, c'est vraiment la Rolls-Royce, c'est la Rolls-Royce du produit dérivé aujourd'hui, quoi. C'est que le jouet, c'est vraiment la Rolls-Royce, quoi. Alors que le jeu vidéo, c'était plus abordable, et on s'est lancé en même temps que, dès les premiers tomes, un peu à faire un jeu vidéo Last Man qu'on a fait.
Très marrant que tu dises le jeu vidéo, c'est le plus abordable.
D'une certaine manière, oui. Parce que en gros, c'est une industrie, mais c'est fait sur des ordinateurs. Il n'y a pas besoin d'avoir, par exemple, pour faire juste un moule en plastique d'un. Ça vaut, je sais pas, 30 000 balles le moule. Il faut le faire fabriquer en Chine. Il faut les frais de port et tout le bordel. C'est insupportable.
Alors que le jeu
jeux vidéo, on peut faire tout
Made in France,
quoi.
Il y a des scripts qui les font bouger tout seul. C'est facile, facile à faire.
Mais non,
pas du tout.
Et après le truc par contre, c'est que si on avait quelqu'un de la bande qui savait faire du sculpt et tout ça. Ça c'est par exemple c'est un conseil que je donne.
Faudrait faire des funk pop par exemple, tu vois, de la
oh. Oui, ouais, mais en gros, non mais avec
soit
les grosses
pas,
têtes les grosses
moi,
têtes
j'ai
de,
un peu vomi
de,
dans ma bouche.
Soit
de
pas
smiley,
vieux Balek, pardon.
C'est Balek n'importe quoi.
Mais par contre c'est vraiment un conseil, c'est que il faut utiliser les ressources humaines qu'on a à disposition. J'avais un pote qui savait faire du jeu vidéo, on a fait un jeu vidéo. Si j'avais eu un pote qui savait faire du plastique et qui savait faire ça, on aurait peut-être fait des jouets.
C'est les
ressources humaines, quoi. C'est aussi simple que ça. Si vous commencez à avoir un projet et que vous dites, je voudrais faire une BD, mais vous savez pas dessiner. Vous écrivez un peu, vous connaissez personne qui dessine. Je sais pas, ça commence à devenir très compliqué, quoi. Il faut vraiment se dire, ok, on a envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on sait faire tous les trois et on fait le projet.
Vous avez même foutu des stickers. Dans chaque album, il y a des stickers que vous pouvez en mode Panini, quoi.
Bah ça, pour le coup, c'était parce qu'on pouvait pas vendre pour les coûts de production un manga à 6€. Un manga à 6€, c'est de l'achat de droit. Ça vaut pas grand-chose et donc on peut le vendre à 6€. Aujourd'hui, il faut payer la création. Ça coûte de l'argent. C'est le truc. Pour le même objet manga, il allait coûter 8 ou 9€. Et on s'est dit peut-être même plus. Et on s'est dit quitte à ce que ça coûte plus cher, au moins que ce soit un bouquin un peu plus quali. Et donc on avait un très beau papier, on avait une jaquette, on avait les stickers, et voilà, le bouquin il coûtait 12€, ça coûtait le double, mais on s'est dit que ça valait le coup. On se disait pas, j'achète un manga cher, on se disait j'achète
une œuvre
ouais, non, mais une œuvre un peu plus
plus quali.
En fait, on a pris l'édition Deluxe manga dans lequel on a ajouté des stickers.
Et à la fin de chaque tome, il y a un truc un peu particulier aussi, c'est qu'il y a un journal de bord.
Du bonus.
Donc ça c'est toi, Balek.
Bah oui,
c'est ton idée.
Ah bah c'est parce que dans les mangas ils font ça. Alors moi je suis comme un connard, je vais faire pareil. Non, t'as souvent les mots de lente. Enfin moi c'était dans les Bastards, grosso modo, ouais, t'avais Kazushi Hagiwara qui à la fin, grosso modo, se dessinait comme un gros porc qui doit être sans doute. Je pense que il doit être pas très très joli. Et qui était avec ses assistants, tu sais, en train d'écouter du Megadeth et en train de dire oh pardon on est en retard, toi. Et du coup, je me suis dit c'est rigolo et puis voilà. Donc c'est parti de encore une fois des mangas, quoi.
Si les gens l'ont pas lu, ça, tu donnes vraiment une toute petite partie de ce qui se passe en fait. Donc
documentaire.
Michael, il dit juste.
Ah oui, moi je suis une espèce d'animal un peu. Non mais Balak m'a créé une réputation quand même.
Ouais.
Je dois le souligner d'attardé notoire.
et
aujourd'hui, j'ai pas mal de gens qui me disent mais vous êtes vraiment des jeunes.
Oui.
Je dis ouais. pas loin, mais quand même. Non, je plaisante. Mais du coup, c'est très étonnant le pouvoir
du
personnage qu'a créé Balak, quoi. Oui.
Mais quand la légende est plus belle que la réalité, il faut garder la légende, comme dirait Clint Eastwood dans l'être d'Hirojima.
C'est très fordien, Last Man. Voilà.
Genre, t'as sorti ton mot.
C'est fordien.
C'est très fordien.
Ouais. Fort d'escorte ou plutôt fort.
Ouais. Oh là.
Non, et en fait, c'était aussi bien d'avoir ce côté bonus où on avait fini. Il y a une petite récréation et même Balak faisait une espèce de petite synthèse parce que c'est lui qui il finissait avant nous.
Okay.
Parce que vu qu'il avait fini son storyboard et nous, même si on avançait pratiquement en même temps, mais nous on était en train de dessiner le dernier chapitre et Balak pendant ce temps-là faisait ses bonus et il s'amusait un peu à faire vraiment c'est le mot journal de bord et ça permettait, je pense, de garder toujours l'idée qu'il y avait une espèce qu'on était une entité à trois
et le produit de trois hommes.
C'est bien, quoi. Ça mettait des visages derrière
des lèvres aussi.
Des lèvres, ouais.
Comment t'as vécu, Bastien, toi, de ton côté, le personnage?
Ah, le personnage, c'était très bien. Hein. Je trouve qu'il correspond parfaitement.
Moi, j'ai fait que reprendre exactement ce que tu disais.
Ouais, il n'y a aucun problème. Je trouve que c'est même flatteur. On a beaucoup rigolé avec ces rôles là.
C'est souvent le côté fun qui les gens nous remontent, ce côté vous marrez, vous êtes des potes. Là où aujourd'hui, un petit peu la BD, quand même, on se prend un peu. On se prend très au sérieux, quoi.
Alors déjà, non, mais c'est vrai, alors déjà on n'est pas amis.
La BD, on n'a jamais été amis. Qui sont tristes parce que c'est. On fait pas des choses rigolotes, on dessine pas des zizi dans les BD. Enfin, tu vois, il y a un côté très auteur que moi, j'aime pas du tout. Alors, ce côté, on fait des blagues de caca, de prout. Et on peut aussi faire des choses bien, quoi, sincèrement, mais... sans prétention, quoi.
Les gens ont tendance à pas voir la bite qui cache la forêt.
Voilà.
Voilà, j'avais envie juste de dire cette expression.
Ça veut rien dire.
Bah, si tu réfléchis, si. Hein.
Voilà. Tu vois, hier, on était à la radio, et pendant l'interview, il y a eu un petit passage de Moebius qui parlait des mangas et tout. C'était très, très intéressant, vraiment très intéressant. Et Moebius, c'est quelqu'un, il est sacré dans le monde de la BD. Mais c'est quand même, c'est Momo, quoi. J'ai eu envie de dire merci Momo. Et j'ai fait non, après ils vont croire que je manque de respect à Jean Giraud.
Surtout
que
son extrait, il a quand même dit une bonne grosse connerie.
Ouais, après, non, mais on pourrait.
Non, mais il avait une inquiétude dans Mado, le pain jaune.
Moi je comprends complètement son inquiétude hein, parce que
il disait quoi exactement
pour non, Mado, il disait que l'inquiétude.
En fait, il arrive, donc l'interview est en 2007. Et lui, quand il racontait quand dans les années 60-70, il rencontre Tezuka au Japon et il revient dans ses valises avec des mangas, donc avec. Tezuka, donc la naissance du manga, qui montre à des éditeurs, et les éditeurs disent ah bah tiens, ça va être intéressant, donc ils commencent à se mettre un peu sur le manga. Mais imagine, mets-toi à la place de Moebius, où tout d'un coup, en fait, t'avais Tezuka à la base, pour toi c'était ça un peu le manga, et tu te retrouves en 2007 où c'est Naruto One Piece avec des personnages qui sont complètement.
Fais gaffe à ce que tu vas dire, parce que.
Je veux dire, un peu avec les monstres engendrés du manga, quoi, d'une certaine manière. Non, mais il y a des.
Parlons-en des monstres engendrés par Metal Hurlant et la BD adulte des années 80.
Bien sûr.
Parlons-en.
Mais non, et je pense que lui, de son côté, quand il voit arriver ça, il se dit non, mais c'est ça le manga aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a toute une part du manga un peu plus auteur qui a été un peu caché par un raz-de-marée de... Et je dis ça... Moi, je pense que des très bonnes séries manga, il n'y en a pas forcément tant que ça,
non,
qui sont arrivées en France. Et il y en a sûrement d'autres qui n'ont jamais pu réussir à passer ou je sais pas quoi. Mais je veux dire, moi, dans le manga, je retiens pas forcément même... Même Dragon Ball, même tout ça, j'en retiens quelques-unes, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu une arrivée où ça a tout ruiné, quoi. Il y avait vraiment des trucs, je pense, très, 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 très régressifs. C'est pour ça qu'il fait dire ça.
Ouais. Oui, mais j'ai envie de dire. J'étais un peu déçu parce que, effectivement, c'était 2007 et c'était vraiment dans un discours global de la. On était vraiment dans le péril jaune, quoi. T'avais vraiment tous les auteurs de BD qui étaient en train de chier leurs planches une fois par mois en couleur directe, qui étaient en train de se chier dessus parce qu'ils voyaient arriver ces Chinois qui pondaient des trucs pas nobles. En plus, ils travaillaient en atelier, tu vois, c'était pas de l'art, tu vois. Il y avait vraiment tout ce discours, bizarrement, alors que la BD a souffert vraiment de ce côté, genre, ça n'est pas de l'art.
Oui.
Depuis toujours, elle a été stigmatisée comme étant un truc non noble. Et puis là, tout à coup, il y avait des nouveaux gardiens du plan qui disaient mais c'est non noble. Oui, c'est non noble, c'est ça qui est bien. Foutez-nous la paix. C'est justement, on peut se permettre beaucoup de choses. C'est parce que justement, il n'y a pas le saut, il n'y a pas le tampon avec marqué ici on fait de l'art, qu'il y a pu avoir une liberté, qu'il y a pu avoir beaucoup de choses qui ont été tentées, que oui, c'est une industrie énorme au Japon. C'était aussi et surtout ça qui faisait grincer des dents, c'était qu'il y avait aussi un savoir-faire japonais au niveau de comment est-ce qu'on vend ce papier, que finalement, ce qui s'est perdu. Dans l'Occident. Et du coup, pour moi, il y avait tout à trancœur aussi derrière. Après, d'un point de vue artistique, on peut discuter, il y a plein de choses qui sont dégueulasses.
2007, c'est quand même des années qui sont très dures pour le manga, quand même. Il n'y a pas grand chose en 2007.
Oui, alors qu'est-ce qu'il y avait en franco-belge?
Non, mais en franco-belge, non, mais j'en sais rien, mais il y a.
Non, mais on peut refaire la baston Mega Drive Super Nintendo,
c'est sans fin.
Mais bon, il y a des. Voilà.
Non, mais tu vois, c'est pas Parasite, c'est pas. Ken le survivant, enfin, tu vois, des grands trucs du manga, tout d'un coup, on se retrouve avec un manga qui, en fait, d'une certaine manière, il tire un peu la sonnette d'alarme, là où les Japonais s'en sont pas forcément rendus compte tout de suite, où le manga se casse un tout petit peu la gueule. Non, mais, je sais pas que. Je pense que quand il dit ça, il comprend plus grand chose au manga.
Oui,
il est mort 5 ans plus tard.
Un an après,
Et donc, En gros, c'est juste que le manga a commencé un tout petit peu à se casser la gueule parce que ils ont pas su se renouveler dans leur série. Il y a eu
l'attaque des géants, mais
ça a été, c'était déjà un peu trop tard et, oui. Ça, et ça renouvelait pas du tout le genre.
Non, mais il y a aussi la progression naturelle. On va faire un podcast sur la bande dessinée et son histoire. Il y a aussi la progression naturelle de la perte de vitesse de la bande dessinée dans le monde en tant que médium de consommation de masse populaire qui a perdu de la vitesse.
Bien sûr,
t'as les mangas. Enfin, oui, effectivement, il y a eu le creux de la vague. Il y a beaucoup de merde. Et puis c'est vrai que là, on revient en ce moment avec l'attaque des Titans, My Hero Academia. Ils recommencent à avoir, tu vois, les mecs sont quand même toujours sur la brèche et se renouvellent aussi. Ils ont un discours sur ce qu'ils ont produit. Tous les mangas qui cartonnent en ce moment sont des espèces de discours un peu méta justement sur ce que c'était que le shonen et tout ça. Donc il y a vraiment une espèce de renouvellement dans l'industrie qui est très intéressant.
Alors ce que j'ai l'impression, parce que je m'y connais pas autant.
Ah oui, tu t'emmerdes là en fait depuis.
Parce qu'en fait c'est très intéressant de c'est très intéressant de vous entendre là, mais en fait j'ai l'impression que vous réunissez un peu les deux mondes, quoi. Vous remariez les deux mondes, c'est-à-dire que vous avez un peu cette culture là franco-belge dans laquelle vous avez baigné depuis tout petit, quoi. J'imagine.
Ah oui, ouais, c'est ça.
Et l'aspect japonais qui vous a plutôt fait grandir dans l'adolescence, quoi.
Mais moi je suis persuadé, tu vois, on parle de One Piece et tout. Aujourd'hui, One Piece, quand moi hier je me balade dans une librairie que je vois le tome 92, je te rejoins complètement. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre, justement, quoi. Mais je pense qu'à la base, quand One Piece est arrivé, ça a fait un effet monstre, quoi. Je pense que ça a généré des envies de vocation chez des gamins qui veulent. Il y a un mélange des genres qui n'est pas forcément de mon goût, mais je pense qu'il y a vraiment créé quelque chose d'intéressant, quoi. Moi, j'aime pas One Piece, mais j'ai jamais vu quelque chose de ce format-là, tu vois, de ce genre-là, quoi.
Non, ouais, et puis.
Et comme tu disais, non, la réunion de ça, c'est-à-dire que, Last Man, il n'y aura pas 92 tomes, il y a 12 tomes. Et par contre, on essaye de ne pas tomber dans le récit interminable, la cash machine. Qui ramène.
Ça aurait été bien aussi, la cash machine.
Ouais, mais c'est plus en ça que je vois le mélange des gens. Ouais,
c'est con. On arrête la semaine au moment où ça a commencé à se vendre. C'est quand même dommage.
Parce qu'on est des connards. Mais ça, c'est bien, ça.
Je sais pas trop.
Non.
Mais oui, de toute façon, on a décidé.
Il faut savoir
d'arrêter.
Partir quand on est au top.
Voilà. Pour rejoindre des univers, par exemple, moi, j'ai pas forcément grandi avec le manga. J'étais vraiment plus ricain et franco-belge. C'est surtout Balak qui a vraiment grosse culture manga, et c'était bien parce qu'il était sur la mise en scène, donc c'est là où on se rapprochait le plus avec une mise en scène manga. Et c'est l'idée, on s'est dit pourquoi ne pas aller chercher les deux choses, enfin comment dire, aller prendre le meilleur des deux, quoi. Je trouve que dans le rythme, dans la narration, dans l'aventure et l'intensité, le manga a vraiment amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui sont hyper intéressantes. Après, je pense que dans le franco-belge, il y a des choses aussi qui sont très, très, très fortes. Il y a des images, juste l'image fixe, forte du franco-belge est très puissante, quoi. Il y a vraiment des BD où tu sais même plus, tu te rappelles juste d'une image en particulier, c'est pour ça que tout d'un coup, les Japonais, quand ils ont vu arriver certains tomes de franco-belge ou du Mobius, ils voient des images, elles pouvaient être, c'était très, très fort. Eux, ils ont pas l'habitude de ça, quoi. L'image, elle est pas si puissante que ça. C'est vraiment la narration. Et donc c'était d'essayer d'avoir les deux, d'avoir dans Last Man, d'avoir des images fortes qui vont nous rester, et puis passer un bon moment de lecture.
Vous aviez prévu de faire 12 tomes, enfin l'histoire était bouclée quand vous l'avez commencé, ou
pas au premier deuxième tome, mais à peu près au 3-4 on savait que ça allait faire 12, quoi.
Ok, d'accord. Ouais. Parlons un peu de l'univers étendu, parce qu'en fait vous avez pas fait 92 tomes, enfin vous ferez pas 92 tomes, mais en revanche vous avez vraiment fait grandir l'univers à plein plein de niveaux. Donc, tout à l'heure vous parliez du jeu vidéo, ça vous vient d'où l'idée de mêler les deux univers comme ça?
C'est un peu comme quand la fenêtre Last Man, on sait pas quand est-ce qu'elle va se fermer. On sait pas si on aura tout le temps l'occasion de le faire ça. Je sais pas si on va avoir l'occasion de refaire un jeu vidéo ou de refaire une série animée ou n'importe quoi. Donc, il fallait y aller. Après, vu que t'as droit à un ou deux essais, il fallait pas se planter. Donc, par exemple, pour la série animée, c'était, il y a France Télévisions qui veut faire de l'animé ado adulte. Ok, nous, on veut Jérémy Perrin. Sinon, on le fait pas. Et on l'a eu, quoi. Et après, pour le jeu vidéo.
Jérémy Perrin,
c'est le réalisateur de la série.
Réalisateur de la série. qui avait fait le clip Die Fantasy et tout ça, qui est un gars qui a vraiment une culture, qui était vraiment
parfait,
parfait pour ça.
Last Man.
Et après, pour le jeu vidéo, par exemple, et ben c'était.
C'est le copain.
C'est comme un chaos et tout le monde, tu te dis, est-ce que c'est l'occasion de faire un jeu vidéo ensemble et est-ce qu'on aurait deux fois cette opportunité? On s'est dit, bon, on va utiliser cette licence et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire un jeu vidéo? On va juste se balader? On va revivre l'histoire? Non, on va faire un jeu de baston qui se passerait dans le monde de Last Man et tout ça. Et donc, on s'est amusé avec ça, quoi. Et il fallait le faire maintenant, quoi. Le faire 10 ans plus tard, ça aurait eu aucun sens. Et donc, on avait la fenêtre ouverte.
Le jeu est sorti en 2014
et là il sort sur Switch la semaine prochaine, je crois.
Ouais. Folle histoire. Et vous y êtes pour que, enfin, vous en tant que, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi votre rôle dans le jeu vidéo à ce moment-là?
J'ai fait le design, tous les trucs et tout. Mickaël a fait les décors dans le jeu vidéo.
Quelques décors, mais pas grand-chose.
Ouais, j'ai fait tous les designs, tous les trucs. Ouais.
On bosse sur les planches en fait. Ouais. Tous ces projets commencent à naître.
N'oublie pas de parler.
Qui se démultiplie, par exemple.
N'oublie pas de parler dans ton micro.
Oui, pardon. Ouais. Et ça, c'est hyper moteur, en fait, de se dire que pendant qu'on bosse les planches, à côté, ils bossent le personnage, à côté, les scénaristes commencent à aborder la série. C'est hyper moteur, quoi. Déjà, l'effet moteur à 3, il est fort. Mais alors, quand il y a des tas de gens qui bossent autour comme ça, c'est une espèce de grosse dynamique qui est très.
Alors pour parler de la série, c'est un sequel pour le coup, un préquel.
Qui
se passe avant donc la BD.
Oui, 10 ans avant. Non.
Bah là qui était sur le scénar.
Ouais, un disque. Hein, en fait.
Ça a été toute une aventure aussi parce que ça a été.
Voilà. Non mais les deux ont été des aventures éditoriales.
Les deux trucs n'auraient pas dû exister. Clairement, on a eu la preuve pendant un moment.
Le CNC aussi, le jeu vidéo, il aurait jamais dû exister.
Voilà, en fait,
aussi.
Sur les trois trucs, en fait, c'est des anomalies. Et puis en fait, c'est que tu passes en force au bout d'un moment. Ça, et des fois, tu effectivement, il y a juste une petite brèche. Et là, tu mets le pied, après l'épaule, et puis ça rentre. Mais c'est vrai que les trois sont des trucs qui ont tenu juste, d'une part avec le courage éditorial de Didier et des gens chez Casterman qui ont tenu le projet même quand ça démarrait très mal. Les gens derrière la série animée qui Didier Crest qui était le producteur d'une adaptation en long métrage de Paulina qui était en préparation à l'époque, qui s'est dit avec vraiment une inconscience saine, on peut essayer de faire la série animée Last Man, parce que je crois qu'il y a un appel d'offres chez France Télévisions en ce moment. Nous on venait de l'animation, on savait que c'était c'était pour faire les aventures d'Adrian et ses copains, fait son goûter, on était pas chaud, quoi.
Et puis moi le premier truc que j'ai pensé, c'est ça va être moche parce que le style il est un peu réaliste, et je me suis dit c'est une catastrophe, ils vont sous-traiter ça je sais pas où, et en fait.
Puis la deuxième
miracle.
La deuxième chose à laquelle tu penses, c'est que jamais la liberté qu'on a justement dans la BD pourra être la même dans le médium animé, puisqu'il y a plus d'argent quand même et plus de gens qui disent moi je pense que ça devrait être moins violent, moi je pense que là il y a trop de cul, Richard ça serait bien s'il fume pas, enfin tu vois, on rentre dans le truc classique qu'on connaît bien. Et du coup pour nous là pareil, on l'a fait en mode comme disait Bastien. Si on nous dit non à un moment, c'est-à-dire qu'on le fait comme on l'a voulu, c'est-à-dire qu'on a écrit le pilote avec Jérémy Perrin et Laurent Sarfati, en se disant, foutu pour foutu, on le fait comme on veut. Et au premier truc, on nous dit, ça passe pas, on fait, tant pis. Mm-hmm. Parce qu'on veut le faire comme ça, mais sans compromis, vraiment. Mm-hmm. Là, on était vraiment en mode un peu, on s'en fout.
Non, ce qui fait que tu t'avances tout le temps sans filet. Et le moindre problème, s'il y a un petit problème, s'il y a un petit grain de sable qui vient de se mettre dans le rouage, et c'est très compliqué parce qu'on n'a aucune sécurité derrière. Ouais. Et donc, dans l'animé, on a le diffuseur qui à un moment donné s'est retiré.
On avait un financier qui s'est retiré.
Il y a un financier qui s'est retiré. C'était 200 000 ou 300 000 balles, je sais plus. Et puis ça a foutu un bordel pas possible. Ça a été l'horreur.
On a dû faire un Kickstarter.
Et tout ça. Et sur la BD, aussi, si tout d'un coup, rien, il t'arrive juste à un moment donné on a fait un petit burn out sur la semaine.
Vous arrivez des couilles.
S'il dure un peu trop longtemps, ça met vraiment tout le truc éditorial, ça devient très très compliqué quoi. Et donc on a joué là-dessus ce qui fait qu'à la fin là quand le 12e tome il sort d'un côté où t'es vraiment content d'être allé jusqu'au bout, que ça a fonctionné, que l'œuvre à la fin soit de qualité, c'est plutôt rassurant quoi.
Donc ça fait 6 piges dans votre vie et d'ailleurs sept ans parce que vous avez commencé 7. Un an avant, c'est
ouais.
ça
2012. Mais,
et d'ailleurs l'animé il est disponible sur Netflix aujourd'hui,
ouais.
Enfin, il est vraiment
Netflix France.
On peut, oui voilà, Netflix France, on peut le voir partout. C'est pareil en fait, j'ai jamais l'impression d'avoir vu un truc de cette qualité là et avec ce niveau de narration là en animé en France. Non mais c'est vrai.
Non mais il y a des animés ado adultes produits en France et créés en France, il y en a jamais eu avant.
De ce type-là, non.
De ce type-là,
un truc vraiment sérialisant et tout ça. Parce que quand il y a eu cette opportunité qui s'est concrétisée, parce que de la même manière que des gens chez Casterman ont soutenu le projet, même quand c'était difficile, il y a eu des gens chez France Télévisions, Pierre Siracusa, Joseph Jacquet, Tiffen de Ragnel, qui ont vraiment soutenu le projet, qui l'ont porté, qui nous ont laissé faire ce qu'on voulait, mais ils avaient un regard aussi de. J'allais dire de lecteurs, mais de spectateurs très très incisifs qui ont permis à la série d'exister dans le bon sens. Et on a eu la chance d'avoir ces gens-là qui étaient là au bon moment et il y avait un peu d'argent. Et on s'est dit, donc avec Jérémy et Laurent, de toute façon, comme pour à chaque fois avec Last Man, on a une fenêtre, on y va, du coup, ok, ça passe, sans compromis. Mais cette fenêtre, elle ne va pas durer éternellement. Et effectivement, la fenêtre s'est refermée très vite, puisqu'on est sur le service public et que le jeu des chaises musicales est ce qu'il est dans le service public. Et effectivement, au premier jeu de chaises musicales, patatras, effectivement, la prod qui se passait relativement bien s'est pris un, puis deux, puis trois coups dans l'aile. Et on a cru qu'on finirait jamais la série, puisque finalement, la case qui lui était consacrée n'existait tout simplement plus.
Ouais.
Quand on était en production.
En l'espace de quelques.
En deux ans, c'est fini. En deux ans, tu passes de allez les gars, on y va à à pu. Et là, généralement, ce qui se passe, c'est que tu finis dans un placard, au mieux, et au pire, tu finis pas. Et ça s'est vraiment posé comme question. Et on a dû finir littéralement à aller chercher chaque centime en faisant le Kickstarter dans la poche des gens qui voulaient bien. Un peu comme si on était avec le Belvédère, tu sais, à la sortie du métro en disant voilà.
Ouais, et puis tout, la diffusion a été un peu expédiée.
La diffusion a été expédiée. Et malgré ça, malgré ce truc, on a quand même réussi à être diffusé le mardi soir entre 23h et minuit sur France 4. Donc là où il y a très peu de gens devant leur télé.
Ouais.
Et on a quand même, du coup, miracle, fait les meilleures audiences de cette tranche horaire-là sur France 4. Bon, alors j'ai envie de dire au Royaume des Aveugles. Voilà. Mais quand même, on faisait des très très bons scores. On a vu très vite aussi sur les réseaux sociaux, et c'est là où c'est les réseaux sociaux, c'est bien. C'est que on a vu un enthousiasme des gens grandir au fur et à mesure. On voyait tous les mardis soirs, il y avait cette espèce de messe où tout le monde commentait minute par minute ce qui se passait sur l'écran, et c'était assez génial de voir que les plot twists ou les choses que tu poses quelques années auparavant en fait fonctionnent et auprès du public quasiment en live. Ça, c'était très très intense, donc c'était très court mais très intense, et surtout ça a eu un impact, l'impact qu'on attendait aussi sur la série, sur le manga, sur la bande dessinée, c'est que ça a vraiment
ça a connecté les
univers
publics,
d'un point de vue créatif, artistique, mais ça a aussi permis à la BD de se vendre mieux, de se faire connaître.
Ça a donné
auprès d'un public
ça a donné
qui
connaît,
une personne sur deux en dédicace, c'est quelqu'un qui a découvert la BD à partir de la série, qui a découvert la série en premier, quoi.
Waouh. Wow. Ah ouais, c'est fou.
Donc c'est assez impressionnant, quoi.
Ok. Donc aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez découvrir,
découvrez.
Voilà.
Qu'est-ce que vous faites là ? Je connais pas, mais ils ont l'air. C'est qui ces trois connards ?
vous pouvez découvrir sur Netflix. Donc là, maintenant que la série se boucle, vous allez faire quoi ? Vous allez repartir chacun de votre côté ? Vous allez continuer à refaire des trucs ensemble ?
Après, il y a toujours l'univers. Si on veut y retourner, on avait mis en place les spin-offs qui étaient les Last Man Stories, mais c'est vraiment des récréations. Donc ça va pas faire des révélations sur la série, sur le papier et tout ça. Donc c'est vraiment des récréations. Donc ça, je pense que on le gardera toujours. Il y a un making-of qui devrait sortir chez Sœur d'édition Casterman, qui va sortir, ce qui reprend toute l'aventure éditoriale Last Man.
Un livre, ouais.
Un bouquin, ouais. Et ensuite, pour retourner un peu sur du Last Man, il y a la saison 2 qui est en écriture là. Donc,
vous avez réussi à la.
Ouais,
la,
c'est
la
bon. Financer, France Télé, ils sont super chauds. Et donc là, je pense que ça devrait entre guillemets mieux se passer.
Tu sais.
On verra, hein, mais parce que là, il y a eu quand même, on a demandé un peu, je pense que ça devrait être un
des
peu.
Des garanties,
plus,
quoi, c'est ça.
Pas des garanties, mais bon, vu comment ça s'est passé sur la première, je pense que les gens vont pas
On serait bien compte de tomber deux fois dans la même.
Dans le même piège. et sinon, à part ça, non, après, on continue un peu nos projets perso.
D'accord. Vous n'avez pas de velléité de refaire un truc à trois.
À part les stories, ouais.
Pas tout de suite, ouais. Mais ouais, à part les stories, on va voir que s'il y a des petits trucs qu'on peut faire, ouais.
Bien sûr.
Avec un tel, comme ça.
Mais
voilà.
Je pense refaire une. Ça m'étonnerait qu'on se retrouve tous les trois sur une. Et refaire une toute autre histoire qui repartirait. C'est Last Man, je vois pas. Que,
oui.
C'était bien d'avoir ça comme ça.
Mm. On l'a fait une fois, c'est bon.
Ça nous a pris assez de points de vie.
On conclura là-dessus. Merci beaucoup les mecs, c'était très sympa.
Merci
beaucoup.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.